Ami de Dieu, avec la force de l'amour. Mêlé à la multitude, un de ces experts, qui n'arrivait plus à discerner quels étaient les enseignements révélés à Moïse, tant ils les avaient eux-mêmes embrouillés dans une casuistique stérile, vient de poser une question au Seigneur. Le Seigneur ouvre ses lèvres divines pour répondre posément à ce docteur de la loi, avec la ferme assurance de celui qui en a bien l'expérience. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à ces deux commandements que se rattachent toute la loi et les prophètes. Voyez maintenant le Maître réuni avec ses disciples dans l'intimité du Cénacle. À l'approche de sa passion, le cœur du Christ, entouré de ceux qui l'aiment, brûle d'un feu ineffable. « Je vous donne un commandement nouveau, » leur dit-il. « Aimez-vous les uns les autres. » « Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Pour approcher le Seigneur à travers les pages du Saint-Évangile, je vous recommande toujours de faire l'effort d'entrer dans la scène, d'y participer comme un personnage de plus. Je connais nombre d'âmes normales et courantes qui le font. Ainsi, vous serez absorbé comme Marie, suspendue aux lèvres de Jésus, ou comme Marthe, vous oserez lui faire part sincèrement de vos soucis, même les plus insignifiants. Seigneur, pourquoi dis-tu que ce commandement est nouveau? Comme nous venons de l'entendre, l'amour envers le prochain était déjà prescrit dans l'Ancien Testament. Et vous vous souvenez aussi que juste au début de sa vie publique, Jésus élargit cette exigence dans sa générosité divine. Vous avez entendu dire « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis « Aimez vos ennemis, faites le bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient ». Seigneur, permets-nous d'insister. Pourquoi continues-tu d'appeler nouveau ce précepte? Cette nuit-là, quelques heures avant de t'immoler sur la croix, au cours d'une conversation intime avec ceux qui, malgré leur faiblesse et leur misère personnelle, semblables aux nôtres, t'ont accompagné jusqu'à Jérusalem, tu nous as révélé la mesure insoupçonnée de la charité, comme je vous ai aimé. Comment les apôtres ne t'auraient-ils pas compris, eux, les témoins de ton amour insondable? Le message et l'exemple du Maître sont nets, précis. Il a étayé sa doctrine de ses œuvres. Pourtant, j'ai souvent pensé que même à 20 siècles de distance, ce précepte continue d'être tout nouveau, car il en est très peu qui se soient préoccupés de le mettre en pratique. Les autres, la majorité, ont préféré, et préfèrent toujours, faire la sourde oreille. Mû par un égoïsme exacerbé, il conclut « À quoi bon tant de complications ? Mes propres soucis me suffisent amplement. » Une telle attitude n'est pas concevable parmi les chrétiens. Si nous professons cette même foi, si nous avons vraiment le désir de mettre nos pas dans les traces nettes que Jésus a laissées sur la terre, nous ne devons pas nous contenter d'éviter à nos proches le mal que nous ne voulons pas pour nous-mêmes. C'est déjà beaucoup, mais c'est très peu si nous avons compris que la mesure de notre amour doit être dictée par le comportement de Jésus. En outre, il ne nous propose pas cette norme de conduite comme un but lointain, comme le couronnement d'une vie entière de lutte. C'est, ce doit être, et j'insiste, pour que tu prennes des résolutions concrètes, un point de départ.
En effet, le Seigneur en fait un signe préalable. En ceci, ils vous reconnaîtront pour mes disciples.
Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est incarné. Il a pris notre nature pour se manifester à l'humanité comme modèle de toutes les vertus. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur, nous propose-t-il. Plus tard, quand il explique aux apôtres le signe par lequel on les reconnaîtra comme chrétiens, il ne dit pas « parce que vous êtes humbles ». Lui, la pureté la plus sublime, l'agneau immaculé, rien ne pouvait souiller sa sainteté parfaite, sans tache, n'indique pas non plus « ils sauront que vous êtes mes disciples à ce que vous êtes chastes et purs ». Il est passé sur cette terre dans le détachement le plus complet des biens de ce monde. Alors qu'il était le Créateur et le Seigneur de tout l'univers, il n'a même pas eu où reposer sa tête. Cependant, il ne dit pas « Ils sauront que vous êtes des miens, parce que vous ne vous êtes point attachés aux richesses. » Il reste dans le désert 40 jours et 40 nuits, en observant le jeûne le plus rigoureux, avant de se consacrer à la prédication de l'Évangile. Et ils n'assurent pas non plus aux siens. Ils verront que vous servez Dieu, parce que vous n'êtes ni des goinfres ni des buveurs. Le trait qui distinguera les apôtres et les chrétiens authentiques de tous les temps, nous l'avons déjà entendu. À ceci, précisément à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Il me paraît parfaitement logique que les enfants de Dieu aient toujours été bouleversés, comme nous le sommes toi et moi en ce moment, par cette insistance du Maître. Le Seigneur n'établit pas que les prodiges, les miracles extraordinaires seront la preuve de la fidélité de ses disciples, bien que, dans le Saint-Esprit, il leur en ait conféré le pouvoir. Que leur annonce-t-il donc ? On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Ne point haïr notre ennemi, ne point rendre le mal pour le mal, renoncer à la vengeance, pardonner sans rancune, était alors considéré, et ne nous y trompons pas, de nos jours encore, comme une conduite insolite, trop héroïque, hors du commun. La mesquinerie des créatures en arrive à ce point. Jésus-Christ, qui est venu sauver tous les hommes et qui désire associer les chrétiens à son œuvre rédemptrice, a voulu apprendre à ses disciples, à toi et à moi aussi, une charité grande, sincère, plus noble et de plus haute valeur. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme le Christ lui-même nous aime chacun de nous. Ce n'est qu'ainsi, en imitant les manières divines avec la maladresse qui nous est propre, que nous réussirons à ouvrir notre cœur à tous les hommes, à aimer d'une façon plus élevée, entièrement nouvelle. Cette charité ardente, qui dépassait de loin les plus hauts sommets de la solidarité humaine ou de la douceur de caractère, les premiers chrétiens l'ont bien mise en pratique. Ils s'aimaient entre eux très fort, tendrement, dans le cœur du Christ. Un écrivain du IIe siècle, Tertullien, nous a transmis le commentaire des païens qui, touchés par la conduite des fidèles de l'époque, pleine d'un attrait surnaturel et humain, répétaient « Voyez comme ils s'aiment ». Si tu sens que tu ne mérites pas cet éloge, maintenant et dans tant d'aspects de ta journée, et que ton cœur ne réagit pas comme il le devrait aux requêtes divines, dis-toi bien que le moment est venu de rectifier. Écoute l'invitation de saint Paul. Tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous, et surtout de nos frères dans la foi, qui constituent avec nous le corps mystique du Christ. Le premier apostolat que nous devons réaliser dans le monde en tant que chrétiens, le meilleur témoignage de foi est de contribuer à ce que l'on respire dans l'Église le climat d'une charité authentique. S'il nous arrive de ne pas nous aimer vraiment, s'il y a parmi nous des attaques, des calomnies et des ressentiments, qui pourra se sentir attiré par ceux qui affirment prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile ? Il est très facile, très à la mode, d'affirmer en parole que l'on aime toutes les créatures, les croyants et les non-croyants. Mais si ceux qui parlent ainsi malmènent leurs frères dans la foi, je doute fort que leur conduite soit autre chose qu'un verbiage hypocrite. En revanche, quand nous aimons dans le cœur du Christ ceux qui, comme nous, sont fils d'un même Père, qui professent une même foi, sont héritiers d'une même espérance, notre âme s'agrandit et brûle du désir d'approcher tous les hommes de notre Seigneur. Je vous rappelle en ce moment les exigences de la charité. Et peut-être l'un d'entre vous a-t-il pensé que cette vertu est précisément absente des paroles que je viens de prononcer. Rien de plus contraire à la réalité. Je peux vous assurer, avec une sainte fierté et sans faux œcuménisme, que je me suis profondément réjoui lorsque, au cours du Concile Vatican II, prenez corps, avec une intensité renouvelée, ce souci de faire parvenir la vérité à ceux qui marchent à l'écart de l'unique chemin, le chemin de Jésus, car je suis dévoré par le désir de voir l'humanité tout entière se sauver. Oui, ce fut vraiment une très grande joie pour moi, mais aussi parce que se trouvait confirmé à nouveau cet apostolat si cher à l'Opus Dei, l'apostolat ad fidem, qui ne rejette personne et accueille les non-chrétiens, les athées et les païens, pour qu'il puisse, dans la mesure du possible, participer au bien spirituel de notre association. Tout ceci se rattache à une longue histoire de souffrance et de loyauté, dont j'ai déjà parlé ailleurs. C'est pourquoi, je le répète sans crainte, je considère hypocrite et mensonger un zèle qui pousserait à traiter correctement ceux qui sont loin, tout en piétinant et méprisant ceux qui, avec nous, vivent d'une même foi. Je ne peux croire non plus à l'intérêt que tu portes aux derniers mendiants du coin si tu martyrises les tiens, si tu restes indifférent à leur joie, à leur peine et à leur chagrin, si tu ne t'efforces pas de comprendre et d'oublier leurs défauts, pourvu qu'ils ne constituent pas une offense à Dieu. N'est-il pas touchant de voir l'apôtre Jean, déjà vieux, consacrer la plus grande partie d'une épître à nous exhorter à mener une conduite qui soit en accord avec cette doctrine divine? L'amour qui doit régner parmi les chrétiens naît de Dieu, qui est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il s'attache à parler de la charité fraternelle puisque par le Christ, nous sommes devenus des fils de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. Tout en frappant fermement notre conscience, afin qu'elle devienne plus sensible à la grâce divine, saint Jean insiste sur le fait que nous avons reçu une preuve magnifique de l'amour du Père envers les hommes. En ceci s'est affirmé l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a envoyé son Fils unique afin que nous vivions par lui. Le Seigneur a pris l'initiative en venant à notre rencontre. Il nous a donné cet exemple pour que nous partions avec lui servir les autres, pour que, comme j'aime à le répéter, nous posions avec générosité notre cœur par terre, comme un tapis moelleux que les autres fouleront et qui leur rendra la vie plus aimable. Nous devons nous conduire ainsi parce que nous sommes devenus fils d'un même Père, ce Père qui n'hésita pas à nous livrer son Fils bien-aimé. Cette charité, ce n'est pas nous qui la bâtissons. Elle nous envahit par la grâce de Dieu, car il nous aima le premier. Il faut que nous nous pénétrions profondément de cette vérité splendide. Si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que nous avons été aimés par Dieu. Nous sommes, toi et moi, en mesure de prodiguer à pleine main notre amour envers tous ceux qui nous entourent, car nous sommes nés à la fois par l'amour du Père. Demandez hardiment au Seigneur ce trésor, cette vertu surnaturelle de la charité, pour l'exercer dans ses moindres conséquences. Il est arrivé souvent que nous, les chrétiens, nous n'ayons pas su répondre à ce don. Parfois, nous avons rabaissé la charité, comme si elle se limitait à l'aumône froide, sans âme. Ou bien, nous l'avons réduite aux bonnes œuvres plus ou moins formelles. Le regret résigné d'une malade exprimait bien cette aberration. Ici, on me traite avec charité, mais ma mère me soignait avec affection. L'amour qui naît du cœur du Christ ne saurait donner lieu à cette sorte de distinction. Pour que cette vérité vous pénètre, j'ai prêché mille et une fois sous une forme imagée que nous n'avons pas un cœur pour aimer Dieu et un autre pour aimer les créatures. Notre pauvre cœur, ce cœur de chair, aime d'un amour humain qui est surnaturel aussi s'il est uni à l'amour du Christ. C'est cette charité-là et nulle autre que nous devons cultiver dans notre âme. Elle nous amènera à découvrir chez les autres l'image de notre Seigneur. Sous le nom de prochain, dit saint Léon le Grand, nous ne devons pas seulement voir ceux qui nous sont unis par les liens de l'amitié ou de la parenté, mais tous les hommes qui participent avec nous d'une même nature. Un est le Créateur qui nous a fait, un aussi le Créateur qui nous a donné l'âme. Nous jouissons tous d'un même ciel et d'un même air, des mêmes jours et des mêmes nuits. Et bien que les uns soient bons et les autres méchants, les uns justes et les autres injustes, Dieu cependant est généreux et bon envers tous. Les fils de Dieu que nous sommes se forgeront dans la pratique de ce commandement nouveau. Nous apprenons dans l'Église à servir et non à être servis, et nous nous sentons la force d'aimer l'humanité d'une façon nouvelle, dans laquelle tous verront le fruit de la grâce du Christ. L'amour dont nous parlons n'a rien à voir avec une attitude sentimentale, ni avec la simple camaraderie, ou avec l'intention quelque peu ambiguë d'aider les autres pour nous prouver à nous-mêmes que nous leur sommes supérieurs. Il consiste à vivre avec notre prochain, à vénérer, j'insiste, l'image de Dieu qui se trouve en chaque homme, l'aidant à la contempler lui-même pour qu'à son tour, il sache s'adresser au Christ. L'universalité de la charité signifie donc l'universalité de l'apostolat. Nous avons à traduire en œuvre et en vérité le grand dessein de Dieu, qui veut que tous les hommes se sauvent et parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous devons aimer aussi nos ennemis, je veux dire ceux qui nous placent parmi leurs ennemis, car je ne me sens l'ennemi de rien ni de personne, à plus forte raison, devons-nous aimer ceux qui ne sont qu'éloignés, ceux qui nous sont moins sympathiques, ceux qui, par leur langue, leur culture ou leur éducation, semblent être à l'opposé de nous-mêmes. De quel amour s'agit-il ? La Sainte Écriture parle de dilectio, afin que l'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas seulement d'affection sensible. Ce mot exprime plutôt une ferme détermination de la volonté. Dilectio vient de electio, délire. J'ajouterai qu'aimer en chrétien signifie vouloir aimer, se décider dans le Christ à chercher le bien des âmes, sans discrimination d'autre genre, en leur voulant, par-dessus tout, le plus grand bien, qu'elles connaissent le Christ et s'en éprennent. Le Seigneur nous presse, « Soyez bons pour ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Nous pouvons ne pas nous sentir humainement attirés par des personnes qui nous rejetteraient si nous nous approchons d'elles. Mais Jésus nous demande de ne pas leur rendre le mal pour le mal, de ne pas laisser échapper les occasions de les servir de tout notre cœur, quoi qu'il nous en coûte, de les avoir toujours présentes dans nos prières. Cette dilectio, cette charité, revêt des nuances plus intimes quand il s'agit de nos frères dans la foi, tout particulièrement de ceux qui se trouvent plus près de nous, parce que Dieu l'a établi ainsi. Parents, mari ou femme, enfants, frères et sœurs, amis, collègues et voisins. Sans cette affection, qui est un amour humain noble et pur, ordonné vers Dieu et fondé en lui, la charité n'existerait pas. J'aime reprendre des paroles que le Saint-Esprit nous communique par la bouche du prophète Isaïe.
Dicite bene facere.
Apprenez à faire le bien. J'ai l'habitude d'appliquer ce conseil aux différents aspects de notre lutte intérieure, étant donné qu'il ne faut jamais penser que la vie chrétienne est achevée, car le progrès dans les vertus découle d'un effort personnel, quotidien et effectif. Pour l'apprentissage de n'importe quelle tâche au sein de la société, comment nous y prenons-nous ? Nous considérons d'abord le but recherché et les moyens pour l'atteindre.
Puis nous les employons de façon répétée jusqu'à créer une habitude fermement enracinée en nous.
Dès que nous apprenons quelque chose, nous en découvrons d'autres que nous ignorions et qui constituent une motivation pour poursuivre la tâche sans jamais dire assez. La charité envers le prochain est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, quand nous nous efforçons de progresser dans cette vertu, nous ne pouvons pas nous fixer de limites. Avec le Seigneur, la seule mesure est d'aimer sans mesure. D'une part, parce que nous n'arriverons jamais à le remercier assez pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'autre part, parce que l'amour de Dieu envers ses créatures se présente ainsi, surabondant, sans calcul, sans frontières. À nous tous, qui sommes disposés à l'écouter de toute notre âme, Jésus-Christ nous enseigne, dans le sermon sur la montagne, le commandement divin de la charité. Et à la fin, en guise de résumé, il explique « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » La miséricorde n'en reste pas à une froide attitude de compassion. La miséricorde s'identifie avec la surabondance de la charité. Être miséricordieux, c'est garder le cœur sensible, c'est entretenir la blessure humaine et divine d'un amour ferme, sacrifié, généreux. C'est bien ainsi que saint Paul, dans son hymne à cette vertu, résume la charité. La charité est longanime, la charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout espère tout, supporte tout. L'une des premières manifestations de la charité consiste concrètement à engager l'âme sur la voie de l'humilité. Lorsqu'en toute sincérité, nous nous prenons pour moins que rien et que nous comprenons que la plus faible et la plus insignifiante des créatures serait meilleure que nous, si nous n'avions le secours divin, quand nous nous sentons capables de toutes les erreurs et de toutes les horreurs, quand nous nous savons pécheurs, malgré notre lutte acharnée pour éviter tant d'infidélités, comment allons-nous penser du mal des autres? Comment saurions-nous nourrir dans notre cœur le fanatisme, l'intolérance, l'arrogance? L'humilité nous conduit, comme par la main, vers cette façon d'aborder notre prochain, qui est la meilleure. Comprendre tous les hommes, vivre en bonne entente avec tous, pardonner à tous, ne créer ni division ni barrière, nous comporter toujours comme des instruments d'unité. Ce n'est pas en vain qu'il existe au fond de notre âme une forte aspiration à la paix, à l'union avec nos semblables, au respect mutuel des droits de la personne, de sorte que tous ces égards se transforment en fraternité. C'est le reflet de ce qu'il y a de plus précieux dans notre condition humaine. Si nous sommes tous enfants de Dieu, la fraternité ne se réduit pas à un lieu commun. Elle n'est pas non plus un idéal illusoire. Elle apparaît comme un but difficile mais réel. Face à tous les cyniques, aux sceptiques, aux désabusés, à ceux qui se sont fait une mentalité de leur propre lâcheté, nous, les chrétiens, nous devons prouver que cette affection est possible. Il existe peut-être beaucoup de difficultés pour agir de la sorte, car l'homme a été créé libre et il est en son pouvoir de tenir tête inutilement, amèrement, à Dieu. Mais cet amour est possible et réel, car cette conduite découle nécessairement de l'amour de Dieu et de l'amour pour Dieu. Si toi et moi nous aimons, Jésus-Christ aime aussi. Alors nous comprendrons dans toute leur profondeur et dans toute leur fécondité la douleur, le sacrifice et le dévouement désintéressé dans la vie de tous les jours. Il pécherait par ingénuité celui qui s'imaginerait arriver facilement à bout des exigences de la charité chrétienne. Notre expérience des rapports entre les hommes, et malheureusement au sein de l'Église, est bien différente. Si l'amour ne nous obligeait pas à nous taire, chacun de nous pourrait parler longuement de division, attaque, injustice, médisance, intrigue. Il faut tout bonnement l'admettre pour essayer d'y remédier personnellement, en nous efforçant de ne blesser personne, de ne malmener personne, de ne pas accabler celui que nous corrigeons. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Peu d'années après l'ascension de Jésus-Christ, alors que presque tous les apôtres se rendaient encore d'un endroit à un autre et qu'une ferveur formidable dans la foi et l'espérance était générale, beaucoup cependant commençaient à se fourvoyer, à ne pas vivre la charité du Maître. Du moment où il y a parmi vous jalousie et discorde, n'est-il pas évident que vous êtes charnels et votre conduite n'est-elle pas toute humaine ? Lorsque vous dites l'un « Moi, je suis pour Paul » et l'autre « Moi, pour Apollos », n'est-ce pas là bien humain? N'est-ce pas là une conduite d'hommes qui ne comprennent pas que le Christ est venu abolir toutes ces divisions? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux pour la part que le Seigneur lui a donnée. L'apôtre ne rejette pas la diversité. Chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Mais ces différences doivent être canalisées pour le bien de l'Église. Je me sens poussé maintenant à demander au Seigneur, unissez-vous à ma prière, si vous le voulez bien, de ne pas permettre que le manque d'amour soit comme de l'ivraie semée dans le champ de son Église. La charité est le sel dans l'apostolat des chrétiens. S'il perd sa saveur, comment pourrions-nous affronter le monde et dire à la tête haute « Ici se trouve le Christ » C'est pourquoi je vous répète avec saint Paul, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis pas plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Face à ces propos de l'apôtre des gentils, il y a bien sûr ceux qui s'identifient à ces disciples du Christ qui, à l'annonce par notre Seigneur du sacrement de sa chair et de son sang, firent le commentaire suivant. Cette doctrine est trop dure. Qui peut l'écouter? Oui, elle est dure, cette doctrine. Car la charité que l'apôtre nous décrit ne se limite pas à la philanthropie, à l'humanitarisme ou à la compassion, bien naturelle, devant la souffrance d'autrui. Elle exige de pratiquer la vertu théologale de l'amour de Dieu et de l'amour des autres pour Dieu. C'est pourquoi la charité ne passe jamais. Les prophéties, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car imparfaite est notre science, imparfaite aussi notre prophétie. Bref, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Nous sommes maintenant convaincus que la charité n'a rien à voir avec cette caricature que parfois d'aucuns ont prétendu esquisser de cette vertu centrale dans la vie du chrétien. Alors, pourquoi sommes-nous tenus de la prêcher continuellement? S'agirait-il d'un thème en quelque sorte obligatoire, mais ayant peu de chances de se manifester dans des faits concrets? Si nous nous regardions autour de nous, il se pourrait que nous trouvions des raisons de croire que la charité est une vertu illusoire. Mais si toi et moi, nous envisageons les choses avec un esprit surnaturel, nous découvrirons aussi la racine de cette stérilité, l'absence de relations intenses et continuelles en tête-à-tête avec notre Seigneur Jésus-Christ, et la méconnaissance de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme, dont le premier fruit est précisément la charité. Reprenant quelques conseils de l'apôtre, portez le fardeau les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ, un père de l'Église ajoute. En aimant le Christ, nous supporterons facilement les faiblesses des autres, même de celui que nous n'aimons pas encore, parce que ses œuvres ne sont pas bonnes. C'est dans cette direction que s'élève le chemin qui nous fait grandir dans la charité. Si nous pensons que nous devons d'abord exercer des activités humanitaires, des tâches d'assistance, en excluant l'amour du Seigneur, nous nous trompons. Nous ne devons pas délaisser le Christ, parce que nous nous occupons de notre prochain malade, étant donné que nous devons aimer celui-ci à cause du Christ. Voyez l'exemple de Jésus. Sans cesser d'être Dieu, il s'humilia, prenant la condition d'esclave pour pouvoir nous servir. Voilà la seule voie, le seul effort qui en vaille la peine. L'amour cherche l'union, l'identification avec la personne aimée. En nous unissant au Christ, nous serons pris du désir de le seconder dans cette vie de renoncement, d'aimer sans mesure et de nous sacrifier jusqu'à la mort. Le Christ nous place devant une alternative fondamentale. Dépenser notre existence personnelle, égoïstement et en solitaire, ou nous consacrer de toutes nos forces à une tâche de service. Nous allons maintenant demander au Seigneur, pour finir ce moment de conversation avec lui, de nous accorder de pouvoir redire avec saint Paul « Nous triomphons par celui qui nous a aimés ». Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. L'Écriture chante aussi cet amour avec des mots enflammés. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. C'est cet amour qui a toujours rempli le cœur de Marie, au point de lui donner des entrailles de mère pour l'humanité entière. Chez la Sainte Vierge, l'amour de Dieu se confond aussi avec la sollicitude envers tous ses enfants. Son cœur très doux, attentif aux moindres détails, ils ont besoin de vin, a dû beaucoup souffrir en voyant cette cruauté collective et cet acharnement des bourreaux que furent la passion et la mort de Jésus. Mais Marie ne dit rien. Comme son fils, elle aime, elle se tait et elle pardonne. Voilà la force de l'amour.